Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 40e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse, se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Nous avions parlé les dernières fois de la naissance et de la montée du disco. Voyons maintenant ses critiques et son déclin. Plusieurs parodies du style disco ont été créées. Rick Dees, à l'époque DJ de radio à Memphis, Tennessee, a enregistré Disco Duck en 76 et Discorella en 77. Frank Zappa a parodié le style de vie des danseurs disco dans Disco Boy sur son album Zoot Lose en 76 et dans Dancing Fool sur son album Shake Your Body de 79. Le premier album éponyme de Weird Al Yankovic en 83, comprend une chanson disco intitulée Gotcha Boogie, un jeu de mots prolongé sur la similitude du mouvement disco avec le mot argotique américain booger. L'humoriste Bill Cosby a consacré la totalité de son album Disco Bill de 77 à des parodies de disco. En 80, le magazine Mad a publié un flexi-disc intitulé Mad Disco, comprenant 6 parodies complètes du genre. Parmi les chansons de rock'n'roll critiquant le disco, citons Old Times Rock'n'Roll de Bob Seger et surtout Sister Disco des Who, tous deux en 78, bien que Eminence Front des Who, 4 ans plus tard, est un côté disco. As I walk through that hospital door, I was sewn up like a coat. I got a smile from the bite of the wind. Watch the fresh fall of snow. Goodbye.
left on them blind.
À la fin des années 70, un sentiment anti-disco se développe parmi les fans de musique rock et les musiciens, en particulier aux États-Unis. Le disco est critiqué comme étant abrutissant, consumériste, surproduit et évasif. Les slogans « Disco sucks » et « Death to disco » deviennent courants. Des artistes rock comme Rod Stewart et David Bowie, qui ajoutent des éléments disco à leur musique, sont accusés de se vendre. La sous-culture punk aux États-Unis et au Royaume-Uni était souvent hostile au disco. Bien qu'au Royaume-Uni, de nombreux fans de la première heure des Sex Pistols, comme les Bromley, Contingent et Jordan, aimaient le disco, se réunissant souvent dans des boîtes de nuit comme Louise's à Soho et Sombrero à Kensington. Le titre Love Hangover de Diana Ross, l'hymne de la maison Louise's, est cité comme l'un des préférés de nombreux punks britanniques. Le film The Great Rock'n'Roll Swindle et sa bande originale contiennent un medley disco de chansons des Sex Pistols intitulé Black Arabs et crédité à un groupe du même nom. peut citer également Blondie, qui a lancé sa carrière dans le punk rock, mais qui s'est très vite tournée vers le disco. Cependant, Jello Biafra des Dead Kennedys, dans la chanson Saturday Night Holocaust, a comparé le disco à la culture des cabarets de l'Allemagne de l'ère Wehrmacht pour son apathie envers les politiques gouvernementales et son évasion. Mark Mothersbaugh, du groupe Devo, a déclaré que le disco était comme une belle femme avec un beau corps mais pas de cerveau, et un produit de l'apathie politique de l'époque. James Testa, critique de rock du New Jersey, a écrit « Put a bullet through the jukebox », une charge vitriolique contre le disco, considéré comme un appel aux armes du punk. Steve Hillage, peu avant sa transformation de musicien rock progressif en artiste électronique à la fin des années 70, avec l'inspiration du disco, a déçu ses fans rockistes en admettant son amour pour le disco. Hillage se souvenant que c'est comme si j'avais tué leur chat domestique. Un sentiment anti-disco a été exprimé dans certaines émissions de télévision et certains films. Un thème récurrent de l'émission WKRP in Cincinnati était une attitude hostile envers la musique disco. Dans une scène du génial film comique du trio Zaz pour Zucker Abraham Zucker, Airplane, ou Y a-t-il un pilote dans l'avion en français, de 1980, le 12 juillet 79 est connu comme le jour de la mort du disco, en raison de la Disco Demolition Night, une manifestation anti-disco lors d'un match de baseball double au Cosmic Park de Chicago. Les DJ d'une station de rock, Steve Dow et Gary Mayer, ainsi que Michael Vick, fils du propriétaire des Chicago White Sox, Bill Vick, ont organisé l'événement promotionnel pour les fans de rock mécontent entre les matchs d'un programme double des White Sox, en faisant exploser des disques disco dans le champ central. Alors que le deuxième match était sur le point de commencer, la foule déchaînée a pris d'assaut le terrain et a allumé des feux, arraché des sièges et des morceaux de gazon, et commis d'autres dégâts. La police de Chicago procède à de nombreuses arrestations, et les dégâts considérables causés au terrain oblige les White Sox à déclarer forfait pour leur deuxième match au profit des Tigers de Detroit qui ont remporté le premier. Thank you. déclin de la popularité du disco après la Disco Demolition Night a été rapide. Le 12 juillet 79, les 6 premiers disques du Hit Parade américain étaient des chansons disco. Le 22 septembre, il n'y avait plus de chansons disco dans le top 10 américain, à l'exception de l'instrumental Rise de Herb Alpert, une composition de smooth jazz avec quelques accents disco. Certains médias, sur un ton de célébration, ont déclaré que le disco était mort et que le rock était ressuscité. Karen Mixon Cook, la première femme DJ disco, a déclaré que les gens s'arrêtaient encore chaque 12 juillet pour un moment de silence en l'honneur du disco. Dow a déclaré dans une interview en 2004 que le disco était probablement sur le point de disparaître à l'époque, mais je pense que la Disco Demolition Night a accéléré sa disparition.
I spent a lifetime looking for you. Single bars and good time lovers were never true. Playing a fool's game, hoping to win. And telling those sweet lies and losing again. I was looking for love in all the wrong places. Looking for love in too many faces. Searching your eyes, looking for traces of what I'm dreaming of. Hoping to find a friend and a lover. I'll bless the day I discover another heart. Looking for love.
Le mouvement anti-disco a combiné d'autres facteurs sociétaux et à l'industrie de la radio, a changé le visage de la radio pop dans les années qui ont suivi la Disco Demolition Night. À partir des années 80, la musique country a entamé une lente ascension dans les principaux classements pop américains. Le film Urban Cowboy de 80, qui a connu un grand succès commercial, est emblématique de la montée en puissance de la musique country. La popularité continue de la power pop et le renouveau des oldies à la fin des années 70 sont également liés au déclin du disco. Le film Grease de 78 est emblématique de cette tendance. Par coïncidence, la vedette de ces deux films était John Travolta, qui avait joué en 77 dans La fièvre du samedi soir, qui reste l'un des films disco les plus emblématiques de l'époque. Pendant cette période de déclin de la popularité du disco, plusieurs maisons de disques ont fait faillite, ont été réorganisées ou ont été vendues. En 79, MCA Records a racheté ABC Records, a absorbé certains de ses artistes puis a fermé le label. Midsongs International Records a cessé ses activités en 80. Le fondateur de RSO Records, Robert Stigwood, a quitté le label en 81 et TK Records a fermé la même année. Sound Soul Records continue d'exister dans les années 2000 mais est principalement utilisé comme une marque de réédition. Casablanca Records a sorti moins de disques dans les années 80 et a été fermé en 86 par la société mère Polygram. De nombreux groupes qui étaient populaires pendant la période disco ont ensuite eu du mal à maintenir leur succès. Même ceux qui ont essayé de s'adapter à l'évolution des goûts musicaux. Les Bee Gees, par exemple, n'ont eu qu'une entrée dans le top 10 en 89, One, et trois autres chansons dans le top 40, bien qu'ils aient enregistré et sorti bien plus que cela, et qu'ils aient complètement abandonné le disco dans leurs chansons des années 80 et 90. Aux États-Unis, après les années 70. Même si de nombreuses chansons qu'ils ont écrites et fait interpréter par d'autres artistes ont eu du succès, parmi la poignée de groupes qui n'ont pas souffert de la désaffection pour le disco, Cool and the Gang, Donna Summer, les Jacksons et Gloria Gaynor, en particulier, se distinguent. Bien qu'ils aient contribué à définir très tôt le son disco, ils ont continué à faire des chansons populaires et dansantes, bien que plus raffinées, pour une autre génération de fans de musique dans les années 80 et au-delà. Earth, Wind & Fire a également survécu à la tendance anti-disco et a continué à produire des singles à succès à peu près au même rythme pendant plusieurs années supplémentaires, en plus d'une série encore plus longue de hits R&B qui ont duré jusque dans les années 90. Six mois avant l'événement chaotique, en décembre 78, la station de radio populaire de rock progressive WDAI, WLS-FM, avait soudainement changé pour un format entièrement disco, privant des milliers de fans de rock de Chicago et laissant Dow sans emploi. WDAI, qui a survécu au changement de sentiment du public et avait encore de bonnes cotes d'écoute à ce moment-là, a continué à diffuser du disco jusqu'à ce qu'elle passe à un format hybride Top 40 rock de courte durée en mai 80. Une autre station disco, WGCI-FM, qui était également en concurrence avec WDAI à l'époque, a par la suite intégré des chansons R&B et pop à son format, pour finalement devenir une station urbaine contemporaine qu'elle continue à diffuser aujourd'hui. Cette dernière a également contribué à introduire le genre house de Chicago sur les ondes. Les facteurs qui ont été cités comme conduisant au déclin du disco aux États-Unis comprennent les changements économiques et politiques de la fin des années 70, ainsi que l'épuisement du style de vie hédoniste mené par les participants. Dans les années qui ont suivi la nuit de la démolition du disco, Certains critiques sociaux ont décrit le mouvement Disco Sox comme étant implicitement macho et bigot, et comme une attaque contre les cultures non blanches et non hétérosexuelles. Il a également été interprété comme faisant partie d'un retour de bâton culturel plus large, le mouvement vers le conservatisme, qui a également fait son chemin dans la politique américaine avec l'élection du président conservateur Ronald Reagan en 1980, qui a également conduit au contrôle républicain du Sénat des États-Unis pour la première fois depuis 1954, ainsi qu'à la montée subséquente de la droite religieuse à la même époque. En janvier 79, le critique de rock Robert Christgau a soutenu que l'homophobie et plus probablement le racisme étaient les raisons du mouvement, une conclusion soutenue par John Rockwell. Craig Warner a écrit « Le mouvement anti-disco représentait une alliance impie de funkateurs et de féministes, de progressistes et de puritains, de rockers et de réactionnaires ». Néanmoins, les attaques contre le disco ont donné une voix respectable aux formes les plus laides de racisme, de sexisme et d'homophobie non reconnues. Lex McNeil, fondateur du fanzine Punk, a été cité dans une interview comme ayant déclaré « Les hippies ont toujours voulu être noirs. Nous allions « fuck le blues ». Fuck l'expérience noire. Il a également déclaré que le disco était le résultat d'une union impie entre homosexuels et noirs. Steve Dow, qui avait été le fer de lance de la Disco Demolition Night, a nié toute connotation raciste ou homophobe à la promotion, en déclarant « Il est vraiment facile de la regarder historiquement de cette perspective et d'y attacher toutes ces choses, mais nous ne pensions pas comme ça ». Il a été noté que les critiques britanniques punk rock du disco étaient très favorables au genre reggae pro-noir anti-raciste ainsi qu'au mouvement New Romantics plutôt pro-gay. Chris Gow et Jim Tester ont déclaré qu'il y avait des raisons artistiques légitimes pour critiquer le disco. En 79, l'industrie de la musique aux États-Unis a connu son pire marasme depuis des décennies et le disco, malgré sa popularité de masse, a été mis en cause. Le son orienté vers le producteur avait du mal à se mélanger au système de marketing de l'industrie orientée vers l'artiste. Harold Chynes, vice-président senior chez A&M Records, aurait déclaré au Los Angeles Times que la radio est vraiment désespérée pour un produit rock. Et ils sont tous à la recherche d'un rock'n'roll blanc. Gloria Gaynor a soutenu que l'industrie de la musique soutenait la destruction du disco parce que les producteurs de musique rock perdaient de l'argent et que les musiciens rock perdaient la vedette. Le disco, malgré ses écueils, a joué un rôle déterminant dans le développement des genres de musique de danse électronique comme la house, la techno et l'eurodance. Au cours des premières années des années 80, le son disco traditionnel caractérisé par des arrangements complexes exécutés par de grands ensembles de musiciens de studio, y compris une section de cuivre et une section de cordes orchestrales, commence à disparaître progressivement. Des tempos plus rapides et des effets synthétiques accompagnés de guitares et de fonds simplifiés font évoluer la musique de danse vers des genres électroniques et pop, à commencer par la high energy. Malgré son déclin de popularité, la musique dite Club est le disco de style européen connu un succès relatif au début des années 80, avec des chansons comme Flashdance d'Irenae Cara, What a Feeling, thème du film Flashdance, ou Self Control de Laura Branigan. Cependant, un renouveau du disco de style traditionnel appelé New Disco est populaire depuis les années 90. La Music House a montré une forte influence du disco, ce qui explique pourquoi la Music House, compte tenu de son énorme succès dans le façonnement de la musique de danse électronique et de la culture des clubs contemporains, est souvent décrite comme la revanche du disco. Les premiers temps de la Music House étaient généralement une musique de danse caractérisée par des rythmes répétitifs à quatre temps, des rythmes fournis principalement par des boîtes à rythmes, des cymbales charleston décalées et des lignes de basse synthétisées. Bien que la house présente plusieurs caractéristiques similaires à la musique disco, elle est plus électronique et minimaliste, et le rythme répétitif de la house est plus important que la chanson elle-même. De même, la house n'utilisait pas de section de cordes luxuriante, qui était un élément clé du son disco. Mais ça, on le garde bien sûr pour les épisodes qui seront consacrés à la musique électronique et la house. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, canal 91, tout pile bien sûr, de la bande FM. Ou sur internet, via l'onglet Écoutez le direct sur radiofmplus.org. C'est sur ce site aussi que vous retrouverez tous les épisodes précédents en écoute libre, à la demande et en téléchargement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures musicales, et n'oubliez pas, never stop dancing.